Merci d'être là pour cette nouvelle série de rencontres « Pourquoi aimez-vous ?». On m'a dit que c'était la quatrième fois, la quatrième année. J'ai du mal à le croire. Je n'ai pas l'impression d'avoir accumulé beaucoup d'expérience entre-temps. Mais entre-temps, la présentation et le cadre ont un peu changé avec la nouvelle direction. Ces rencontres « Pourquoi aimez-vous ?» s'inscrivent maintenant dans un cadre plus large, celui des bibliothèques de l'Odéon, dont Marie-Laine est responsable et coordinatrice. Ces rencontres, ces bibliothèques de l'Odéon, comprennent une série Exil, une série Scènes imaginaires, une série L'amitié dangereuse, à caractère plutôt philosophique, et enfin Les 18 heures de l'Odéon. Et nous nous inscrivons, nous sommes une sous-section des 18 heures de l'Odéon. Je serai bien embarrassé pour vous résumer tout le programme qui comprend, comme vous le voyez, un livret de près de 60 pages qui est à votre disposition et qui résume assez bien les différents partenariats que nous avons développés sous le titre générique de Bibliothèque de l'Odéon et sous l'égide du rapport de notre théâtre à l'écrit, au texte, aux auteurs et aux auteurs vivants, et aux auteurs très vivants, et c'est à ce titre que je suis
encore
très heureux de commencer cette nouvelle série avec vous, parce que c'est là. On la clora avec quelqu'un que vous appréciez aussi, qui est Olivier Rollin, qui viendra parler de Liliane. Entre-temps, il y aura des surprises, parce que ces rencontres ne sont, en ce qui me concerne, ni préméditées, ni préparées. Ce sont toujours des gens, il n'y a jamais eu d'exception, je crois, des gens que je ne connaissais pas. Ce sont toujours des gens que je ne choisis pas. Ce sont des gens que je choisis de rencontrer par ce biais. Et donc, voilà, j'ai d'abord rencontré Mathias Sénard par ses livres, par quelques-uns de ses livres. Et nous allons nous rencontrer ce soir à l'occasion de l'admiration de Mathias Sénard pour Au cœur des ténèbres de Conrad, j'allais dire cœur des ténèbres, mais on reviendra peut-être sur la question de la traduction du titre plus tard. Mathias Sénard, qui se figurait il y a encore quelques instants qu'il allait devoir lire pendant une bonne heure devant vous, ce qui m'aurait arrangé un peu. Mais bon, je crois que vous avez revu vos prétentions à la baisse. On parlera des raisons pour lesquelles vous admirez Au cœur des ténèbres et pour lesquelles vous avez choisi ce texte. Dans quelques instants, à bâton rompu. Par contre, qu'est-ce que vous avez choisi comme extrait? Vous avez choisi différents extraits dans les trois sections du texte.
Exactement. En fait, j'ai choisi différents extraits qui donnent un peu un aperçu assez général de ce voyage. Et donc, depuis le moment où il se met à peu près en route, sans arriver jusqu'à l'épilogue, mais pas loin.
Alors, à quel moment est-ce que ce voyage se met en route pour vous? Parce que vous avez eu une petite hésitation là-dessus. Quand vous avez découvert le texte pour la première fois, apparemment, vous en expliquez dans cette édition, oui, excusez-moi, je suis en dessous de tout, j'ai oublié de dire que, comme toujours, et comme les trois dernières saisons, cette série de « Pourquoi aimez-vous » est évidemment en partenariat avec Flammarion. Les textes dont nous allons parler tout au long de la saison avec les auteurs sont édités dans la collection Garnier-Flammarion, dans l'AGF. À chaque fois, l'auteur en question répond à une série standard de questions sur son rapport au texte, son amour de ce texte, les raisons qui le motivent, dans une petite interview introductive qui complète l'édition, donc disponible dans l'AGF. On reviendra sur le contenu de cette édition-là de Au cœur des ténèbres en particulier. Enfin, elle se signale très notamment par une introduction très dense et très pleine de matière, qui est à peu près qui est presque aussi longue que le texte lui-même. Ce qui n'est pas du tout une critique de ma part, au contraire, c'est un compliment, parce que c'est un texte qui mérite, je crois, des commentaires infinis. Mais pardon, je digressais. Donc, quand vous avez découvert le texte, vous aviez le sentiment qu'il aurait pu commencer plus vite in medias res, directement dans...
Pas forcément in medias res, mais C'est vrai que ce qui est surprenant quand on ouvre au cœur des ténèbres, dont on sait par avance, puisque c'est difficile de l'ignorer aujourd'hui, qu'il s'agit d'un voyage donc, sur le fleuve Congo, et bizarrement, ce texte s'ouvre sur un bateau,
et sur un autre fleuve,
sur la Tamise, où un premier narrateur à la première personne, dont on ignore le nom, raconte une soirée sur ce bateau, en compagnie de ce que font voilà, les passagers du bateau en général, c'est se raconter des histoires de marins, et notamment un va prendre la parole, qui est plutôt mystérieux, en retrait, et va nous raconter à son tour son fameux voyage sur le fleuve Tongo. Donc les 10 ou 15 premières pages sont finalement juste une première antichambre du texte. Et ensuite, il y en a une deuxième, puisqu'on a le récit des préparatifs du voyage, et notamment bon, cet épisode assez amusant où Marlowe, le narrateur, raconte comment il a été choisi pour prendre le commandement d'un tout petit bateau, pour avoir une compagnie coloniale, et donc on l'envoie notamment chez le médecin. Et ça, c'est une scène qui est tout à fait importante, puisque c'est là qu'on a le premier contact avec la folie, puisque le médecin constate donc que Marlowe, le narrateur, est sain de corps et d'esprit, et lui dit que ce n'est pas toujours le cas de ceux qui reviennent, entre autres. Et donc on rentre un peu comme ça dans l'inquiétant, et ensuite il y a ce je n'ai plus de la phrase exacte, mais c'est, je crois, et nous arrivâmes en vue des côtes de l'Afrique. Enfin, voilà. Et donc là, on arrive vraiment dans le vif du sujet, pour ainsi dire, après ces deux antichambres. Et c'est vrai que moi, quand j'ai lu le texte pour la première fois, je me souviens, mais alors quand est-ce qu'on arrive? Parce que je savais que c'était quand même un récit d'exploration, que je trouvais quand même très court. Et j'avais déjà, on avait déjà un peu, comme pour ainsi dire, grillé bien 20 bonnes pages avant d'arriver sur les lieux qui nous intéressaient.
Ah oui, vous étiez ce genre de lecteur-là, à 13-15 ans.
Oui.
Vous étiez le genre de lecteur qui apprécie la masse d'ensemble du livre et qui fait la proportion entre la partie introductive et la masse d'ensemble. 20 pages sur 80, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il est fou? Il va dans le mur?
Oui, c'est ça, c'était surtout ce côté, mais que va-t-il me rester finalement de...
Il ne va pas avoir le temps.
Voilà, exactement, il ne va pas avoir le temps.
Vous étiez ce genre de lecteur.
Oui, je le découvre.
Et donc, aujourd'hui, vous avez choisi de démarrer votre propre parcours à travers ce voyage-là, à part depuis la Tamise ou...
Non, justement.
Et voilà. Depuis les côtes de l'Afrique. Et
pas juste par avant. Voilà, on voit. Moi, je pense que j'aurais.
Depuis Bruxelles, alors.
Je pense que j'aurais commencé là, moi, le livre. Si j'avais dû l'écrire.
Où ça?
Mais je vais vous le dire tout de suite. Après quoi, on m'embrassa. Me dit de porter de la flanelle et de ne pas manquer d'écrire souvent, et ainsi de suite, et je partis. Dans la rue, je ne sais pas pourquoi, il me vint bizarrement le sentiment que j'étais un imposteur. Drôle d'affaire. Moi, habitué à déguerpir dans les 24 heures à destination de n'importe quelle partie du monde, sans y penser autant que la plupart des hommes pour traverser la rue, j'eus un moment... Je ne dirais pas d'hésitation, mais de stupeur interdite devant cette affaire banale. La meilleure façon de vous l'expliquer, c'est de dire que pendant une seconde ou deux, j'ai eu le sentiment, au lieu d'aller au centre d'un continent, d'être sur le point de partir pour le centre de la Terre. Je m'embarquais sur un vapeur français qui fit escale dans tous les fichus ports qu'ils ont par là. Un seul fin, autant que je puisse voir, de débarquer des soldats et des douaniers. Je regardais la côte. Regarder d'un navire la côte filée, c'est comme réfléchir à une énigme. La voilà devant vous, souriante, renfrognée, aguichante, majestueuse, mesquine, insipide ou sauvage, et toujours muette, avec l'air de murmurer. Venez donc voir. Celle-là était presque sans visage, comme en cours de fabrication, d'aspect hostile et monotone. Le bord d'une jungle colossale, d'un vert sombre au point de paraître presque noir, frangée d'une houle blanche, qui courait droit comme une ligne tracée à la règle, loin, loin le long d'une mer bleue dont le scintillement était estompé par un brouillard traînant. Le soleil était violent, la terre semblait luire et dégoûter de vapeur. Ça et là, des taches d'un gris blanchâtre apparaissaient groupées au-delà de la houle blanche, avec, à l'occasion, un drapeau qui flottait au-dessus. Des comptoirs vieux de plusieurs siècles, et toujours pas plus gros que les têtes d'épingles sur l'étendue intacte de notre entourage. Notre machine allait, s'arrêtait, nous débarquions des soldats, nous repartions, débarquions des gabelous pour percevoir l'octroi sur ce qui paraissait une sauvagerie abandonnée de Dieu, avec une baraque en tôle ondulée et un mât de drapeau perdu dedans. Nous débarquions d'autres soldats, pour veiller sur les gabelous sans doute. Quelques-uns, à ce que j'entendis, furent noyés dans leur sac. Vrai ou pas, personne ne paraissait s'en soucier beaucoup. On les collait là, et nous poursuivions. Chaque jour, la côte avait le même aspect, comme si nous n'avions pas bougé. Mais nous dépassions divers lieux, des comptoirs, avec des noms comme Grand Bassam, Petit Popo, des noms qui semblaient appartenir à quelques farces sordides, jouées sur le devant d'une sinistre toile de fond. Mon oisiveté de passager, mon isolement parmi tous ces hommes avec qui je n'avais aucun contact, la mer huileuse et languide, l'uniformité sombre de la côte semblait me tenir à distance de la vérité des choses, dans les raies d'une illusion lugubre et absurde. La voix de la houle, perçue de temps à autre, était un plaisir positif, comme le langage d'un frère. C'était quelque chose de naturel, cela avait une raison, un sens. Parfois, un bateau venu de la côte tenait un contact momentané avec la réalité. Il avait des pagayeurs noirs. On leur voyait de loin luire le blanc des yeux. Ils criaient, ils chantaient, leur corps ruisselait de sueur. Ils avaient des visages comme des masques grotesques, ces types. Mais ils avaient des os, des muscles, une vitalité sauvage, une énergie intense de mouvement qui était aussi naturelle et vraie que la houle le long de la côte. Ils n'avaient pas besoin d'excuses pour être là. C'était un grand réconfort de les regarder. Un moment, j'avais le sentiment d'appartenir encore à un monde de faits normaux. Mais il ne durait guère. Quelque chose survenait pour le chasser. Une fois, je me rappelle, nous sommes tombés sur un navire de guerre à l'ancre au large de la côte. On n'y voyait pas même une baraque, et ils bombardaient la brousse. Apparemment, les Français faisaient une de leurs guerres dans ces parages. Le pavillon du navire pendait mou comme un chiffon. Les gueules des longs canons de 6 pouces pointaient partout de la coque basse. La houle grasse, gluante, le berçait paresseusement et le laissait retomber, balançant ses mains grêles. Dans l'immensité vide de la terre, du ciel et de l'eau, il était là, incompréhensible, à tirer sur un continent. Boum ! Partait un canon de 6 pouces. Une petite flamme jaillissait, puis disparaissait. Une petite fumée blanche se dissipait, un petit projectile faisait un faible sifflement, et rien n'arrivait. Rien ne pouvait arriver. L'action avait quelque chose de fou. Le spectacle un air de bouffonnerie lugubre. Qui ne furent pas amoindris parce que quelqu'un à bord m'assura sérieusement qu'il y avait un camp d'indigènes, il disait « ennemi », caché quelque part hors de vue. Voilà, premier extrait.
Donc c'est là que vous attaquez. Vous attaquez un peu, vous attaquez un peu avant l'Afrique, vous attaquez encore à Bruxelles, qui n'est pas nommé dans le texte, qui n'est jamais nommé, pas plus que le Congo n'est nommé d'ailleurs. Jamais les lieux sur les cartes ne sont nommés, même Londres ne l'est pas finalement. Donc vous attaquez, en somme vous accomplissez votre rêve de lecteur de 13 ou 15 ans, vous faites la coupe et vous attaquez une medias res. Mais alors, donc vous maintenez votre choix initial?
Non, bien sûr, j'ai compris par la suite tout l'intérêt de ce passage de la parole dans ce bateau, donc comme vous l'avez dit, dans un lieu qui n'est pas nommé, mais sur la Tamise, donc un autre fleuve, on va ramener la parole jusqu'à cette expédition. C'est le début du voyage commence justement par la transmission. D'ailleurs, c'est un roman qui est construit sur ça, sur ce qu'on entend dire, ce qu'on vous raconte, avant ce qu'on voit. Et c'est un témoignage au sens où ce sont justement toujours des propos rapportés. On rapporte les paroles de quelqu'un. Et donc là, Marlowe voit, et je trouve ce passage assez extraordinaire, parce qu'on voit surtout cette histoire du bateau de guerre français, le comble de la brutalité et de l'absurde, qui bombarde quelque chose qu'on ne voit pas, ça n'a aucun intérêt. On ne sait pas du tout ce qu'il fait là, mais il bombarde la jungle. Il bombarde un continent. Donc si tout d'un coup c'était action de guerre, on devenait absolument dérisoire, même si on assure qu'il y a des ennemis, non seulement ces ennemis sont invisibles, mais on ne comprend absolument pas pourquoi ils le sont. Et ce bateau, donc avec son drapeau pendouillant, peu glorieux, tire surtout sur d'immense espace vert. Ça, c'est l'ambiguïté du texte est là aussi, son rapport à même si je pense qu'aujourd'hui on peut le lire de façon tout à fait différente et bien plus symbolique, son rapport à la colonisation est là, l'ambiguïté de son rapport à la colonisation est là. C'est-à-dire qu'à la fois il est très critique vis-à-vis de ses actions de guerre violentes, hein. Et en même temps, il a une vision très, très coloniale de l'Afrique noire. Ce qu'il en remarque, ce sont justement les pagayeurs nègres, qui est le premier contact avec l'Afrique, qui va rester tout à fait distante de toute façon. Tout au long du texte, finalement, la jungle et ceux qui l'habitent sont tout aussi mystérieux. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est un peu... il est dans son bateau, bon, ce premier bateau, ensuite dans le second, il va remonter le fleuve, mais il est dans un non-lieu. C'est un... Je ne sais pas comment vous avez entendu ces pages, mais on a vraiment l'impression qu'il arrive, comme il dit, au cœur de la Terre, c'est-à-dire aux endroits qui n'existent pas encore. Des noms qui n'en sont pas, des lieux qui n'en sont pas, bien indéterminés, et le trajet qui s'ouvre là, s'ouvre vraiment dans cet inconnu, et qui va le rester.
Vous voyez, ce qui m'a frappé en vous entendant lire ce passage, c'est que ce n'est pas un trajet qui s'ouvre dans un inconnu, mais qui est en train de le longer, j'avais envie de vous demander, vous, en tant que romancier, du point de vue de la fabrication, comment, non pas comme lecteur, mais vraiment les mains dans le cambouis, comment voyez-vous Conrad travailler ce passage? Je veux dire par là que, après tout, s'il fallait mettre un titre à ce paragraphe, ce serait quelque chose comme « Premier contact avec l'Afrique ». On pouvait parfaitement imaginer Conrad qui, sur ses brouillons, mettrait « Premier contact avec l'Afrique ». Et ça donne ça. Il le présente comme ça. Vous comme collègue de Conrad, qui n'auriez pas commencé ce court roman comme il l'a commencé, comment est-ce que vous percevez cette construction-là d'une Afrique imaginaire?
Je pense que justement, ce qui m'intéresse pas, ce qui m'intéresserait moi, si c'est justement de, que l'Afrique n'est pas du tout le propos du livre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, on a bien vu, de décrire. L'Afrique, elle est toujours à distance. Elle est justement l'inconnaissable, l'inconnu. C'est pour ça que le roman acquiert aussi facilement une dimension symbolique. C'est parce qu'il ne s'agit pas réellement d'un récit d'exploration. Il bascule tout de suite dans autre chose. Et très certainement, moi, ce qui me rapprocherait de Conrad, c'est d'utiliser le voyage, la mise en route, le déplacement comme moteur de la fiction. Et c'est ce que fait magnifiquement Conrad, pas uniquement dans Cœur de Ténèbres, mais dans beaucoup de ses livres. C'est de dire finalement ce qui l'intéresse dans ce mouvement, dans ce bateau, dans ce voyage. Il n'est pas, pas loin, et bien loin de la description, en fait. On l'a vu, justement, qu'est-ce qu'il décrit. Il décrit justement ce bateau qui ne tire sur rien.
C'est ça qui est très étonnant. Ouais. Le bateau ne tire sur rien, et il parle justement d'un sentiment, au contraire, pas de réalité, mais de son contraire, de déréalité.
Oui, parce que c'est au cœur des ténèbres, c'est un long voyage vers la folie, en fait. On l'a vu dès le départ, avec cette histoire, on a parlé avec cette histoire de médecin, là cette absurdité qui touche à la folie, comme il le dit, de ce bateau qui tire sur rien, les personnages qu'on va rencontrer petit à petit, on avance à l'intérieur de la jungle, sans la pénétrer d'ailleurs, parce que c'est tout le voyage est comme ça, c'est-à-dire que le bateau avance sur le fleuve, mais on ne voit jamais, on ne va jamais dans la jungle, c'est l'inconnu. Il n'y a rien. Et ça finalement, l'exploration proprement dite n'intéresse pas.
D'ailleurs, il parle d'une farce sordide jouée sur le devant d'une sinistre toile de fond. C'est extraordinaire, c'est que toute l'épaisseur du continent se réduit en fait à une sorte de surface factice. Et le héros lui-même, le narrateur lui-même, parle de lui comme d'un imposteur.
Oui. Ils sont.
Leur réel échappe, en fait.
Bien sûr, c'est pour ça que quand on a parlé beaucoup de Cœur des Ténèbres pour aussi critiquer la position de Conrad, la fameuse phrase je suis pour l'extermination des brutes, comme étant colonialiste ou du moins se faisant un peu l'avocat du colonialisme. Moi, je pense pas du tout, puisque c'est justement, il dénonce cette farce et ce faux qu'il y a dans ce rapport et cette description. Et tout le chemin vers la rencontre de Kurtz, qui est vraiment le représentant de la folie et de la folie meurtrière, de la violence et du mal, et vraiment qui se trouve, lui, au cœur des ténèbres, ce voyage, il est finalement extérieur à l'Afrique. C'est un voyage qui est principalement européen. Les personnages qu'on rencontre sont, parmi les personnages principaux, un Russe, Kurtz lui-même, Marlowe, anglais, mais qui passe par la Belgique, ces Français qui déposent leurs soldats et leurs douaniers, parce qu'évidemment, là où la civilisation s'installe, qu'est-ce qu'elle apporte, et ça c'est une critique assez amusante, la douane et la police, la douane et l'armée. Donc voilà, le voyage commence comme ça, mais en fait, il montre déjà que finalement l'Afrique, elle est inconnaissable, elle est ailleurs. Parce que pour Conrad lui-même.
D'ailleurs, dans ce paragraphe que vous venez de lire, une autre chose m'a frappé à mesure que vous le disiez, c'est cette espèce de, j'allais dire de symétrie, mais le terme ne convient pas. En fait, c'est une histoire des non-contacts. Il y a un vaisseau qui glisse sur une mer d'huile sans jamais entrer en contact avec cette surface factice du continent. Les seuls contacts qui ramènent à un sentiment de réalité sont d'une part les indigènes, qui de temps en temps viennent au bateau, et puis une fois il y a eu un bateau, un autre, qui lui balançait des bombes, des obus dans la jungle, comme ça, au hasard. C'était les seuls contacts. Des corps noirs qui sortaient de la côte et des bombes qu'on balançait dans la forêt. En fait,
de contact réel,
de corps à corps, voilà. il n'y a rien eu d'autre, même pas un mot d'échangé. D'ailleurs, sauf erreur, je crois que dans tout le roman, jamais aucun noir ne prononce aucun mot, si. sauf
Mr. Coates, he dead.
Voilà, c'est les seuls mots noirs qui sont prononcés. Oui.
C'est lui qui annonce la mort de Coates.
Est un noir.
Et
on continue le voyage.
On continue le voyage parce que on va retomber un peu sur ce qu'on était en train de dire.
Donc après avoir caboté, après avoir descendu la côte africaine, on arrive à l'embouchure du fleuve.
On remonte un peu.
On remonte un peu, on commence à s'enfoncer dans les terres.
Voilà, et là on va à terre justement. J'évitais un vaste trou que quelqu'un avait creusé sur la pente et dont j'étais incapable de deviner l'objet. Ce n'était pas une carrière, ni une sablière en tout cas. Ce n'était qu'un trou. Il se rattachait peut-être au désir philanthropique de donner aux criminels quelque chose à faire. Je ne sais pas. Puis je faillis tomber dans un ravin très étroit, à peine plus qu'une balafre au flanc de la colline. Je découvris qu'un tas de tuyaux de drainage destinés à l'établissement y avait été versé. Il n'y en avait pas un intact. C'était un massacre gratuit. À la fin, j'arrivais sous les arbres. Mon idée était de marcher quelques instants à l'ombre, mais je ne m'y trouvais pas plus tôt que je crus être entré dans le sombre cercle de quelque enfer. Les rapides étaient proches, et le bruit d'un flot ininterrompu, uniforme, précipité, emplissait l'immobilité lugubre du bosquet, où pas un souffle ne bougeait, pas une feuille ne s'agitait, d'un bruit mystérieux, comme si le mouvement furieux de la terre lancée était tout à coup devenu perceptible. Des formes noires étaient accroupies, prostrées, assises entre les arbres, appuyées au tronc, cramponnées au sol, à demi surgissantes, à demi estompées dans l'obscure lumière, dans toutes les attitudes de la douleur, de l'abandon, du désespoir. Une autre mine explosa sur la falaise, suivie d'un léger frémissement du sol sous mes pieds. Le travail continuait. Le travail. Et c'était ici le lieu où quelques-uns des auxiliaires s'étaient retirés pour mourir. Ils mouraient lentement, c'était bien clair. Ce n'étaient pas des ennemis, pas des criminels. Ce n'était rien de terrestre maintenant. Rien que des ombres noires de maladie et de famine, gisant confusément dans la pénombre verdâtre. Amenés de tous les recoins de la côte dans toutes les formes légales de contrats temporaires, perdus dans un milieu hostile, nourris d'aliments inconnus, ils tombaient malades, devenaient inutiles, et on leur permettait alors de se traîner à l'écart et de se reposer. Ces formes moribondes étaient libres comme l'air, et presque autant insubstantielles. Je commençais à distinguer la lueur des yeux sous les arbres. Puis, abaissant mon regard, je vis un visage près de ma main. La sombre ossature reposait de tout son long, une épaule contre l'arbre. Et lentement, les paupières se soulevèrent, et les yeux creux se levèrent vers moi, énormes et vides, avec une espèce d'étincelle aveugle et blanche dans la profondeur des orbites qui s'éteignit lentement. L'homme semblait jeune, presque un gamin. Mais comme vous savez, avec eux, on ne peut pas dire. Je ne vis rien d'autre à faire que de lui offrir un des biscuits de marin de mon bon suédois que j'avais en poche. Ses doigts le serrèrent lentement et le gardèrent. Il n'y eut pas d'autre mouvement ni d'autre regard. Il s'était attaché un bout de fil blanc autour du cou. Pourquoi ? Où l'avait-il trouvé ? Était-ce un insigne, un ornement, un gris-gris, un acte propitiatoire? S'y rattachait-il une idée quelconque? Cela surprenait autour de son cou noir ce bout de coton blanc d'outre-mer. Près du même arbre, deux autres paquets d'angles aigus étaient assis, leurs jambes remontées. L'un, le menton appuyé sur les genoux, regardait dans le vide, d'une façon horrible, intolérable. Son frère spectral appuyait son front comme s'il fût accablé d'une grande lassitude. Et tout alentour, d'autres étaient éparpillés dans toutes les poses et les contorsions de leur prostration, comme dans un tableau de peste ou de massacre. Tandis que j'étais là, pétrifié d'horreur, un de ces êtres se dressa sur les mains et les genoux et descendit à quatre pattes, boire au fleuve. Il lapa dans sa main, puis s'assit au soleil, croisant ses tibias devant lui, et au bout d'un moment, laissa tomber sa tête crépue sur ses clavicules. Je n'avais plus envie de m'attarder à l'ombre, et je me hâtais vers le poste. Près des bâtiments, je rencontrai un blanc, dans une élégance si inattendue de vêture qu'au premier moment, je le pris pour une sorte de vision. Je vis un col droit en pesé, des manchettes blanches, un veston léger d'alpaga, des pantalons blancs comme neige, une cravate claire, des bottines vernies, pas de chapeau. Une raie, les cheveux brossés, brillantinés, sous une ombrelle doublée de vert que tenait une grosse main blanche. Il était stupéfiant. Derrière l'oreille, il avait un porte-plume. Je serrai la main de ce miracle et j'appris qu'il était le comptable en chef de la compagnie et que toute la tenue des livres se faisait dans ce poste. Il était sorti un moment, me dit-il, prendre un peu d'air frais. L'expression semblait bizarre et singulière, suggérant une vie de bureau sédentaire. Je ne vous aurais même pas parlé de ce type, mais c'est de sa bouche que j'entendis pour la première fois le nom de l'homme qui est si indissolublement lié au souvenir de ce temps-là. En outre, je le respectais, ce bonhomme. Oui, je respectais ses cols, ses vastes manchettes, ses cheveux brossés. À coup sûr, son aspect était celui d'un mannequin de coiffeur. Mais au milieu de la grande démoralisation du pays, il maintenait les apparences. Question de cran. Ses cols empesés, ses plastrons fermes étaient des marques de caractère. Il était là depuis bientôt 3 ans. Et plus tard, je n'ai pas pu empêcher de lui demander comment il réussissait à arborer ce linge. Il eut la plus légère rougeur et dit modestement « J'ai appris à une des femmes indigènes du poste. Ça n'a pas été commode. Elle n'aimait pas ce travail. » Cet homme avait donc véritablement réussi quelque chose. Et il était dévoué à ses livres de comptes, qui était impeccablement tenu.
On ne verra pas beaucoup d'autres livres, d'ailleurs, dans cette jungle-là. Il y aura une autre exception, pas beaucoup d'autres. Il y en aura un autre. Mais les premiers livres qu'on rencontre dans cette jungle sont des livres de contes impeccablement tenus. Et le contraste, l'effet de contraste, évidemment, entre la figure du comptable impeccable et les corps mourants, agonisants,
cette main-d'œuvre exploitée, dont on ignore quel but, ce qui nous montre l'académie, certainement une installation minière, on ne sait pas exactement comment elle fonctionne, puisqu'il parle de ce grand trou, là, on remarque de cet absurde, dont il dit, on avait l'impression que. On avait confié ça à des prisonniers pour creuser parce qu'on ne savait pas quoi leur faire faire. Donc voilà, on sait que ces gens se tuent au travail, mais c'est un travail qui a l'air absolument... dont on n'en voit pas les fruits, à part les livres de comptes. Donc forcément, s'il y a des livres de comptes, c'est qu'il y a de l'argent. Et on sait qu'il y a un comptable, qui est cet homme complètement déplacé, qui reproduit jusqu'à la mèche et la gomina de son territoire natal, comme s'il fallait qu'il tienne un rang de quelque chose qui a complètement disparu, en fait. Et donc là, on est vraiment au cœur de l'illusion. Et d'autant plus que là, on apprend pour la première fois, c'est pour ça que ce passage est aussi important, à mon sens. Non seulement on voit, on s'approche directement de l'horreur ou de la misère, mais plus on en apprend pour la première fois le nom, qui n'est pas prononcé, mais comme le dit Marlowe lui-même, c'est là que j'ai entendu pour la première fois nommer celui qui allait être si important. Et qui n'est autre, bien sûr, que Kurtz.
Et nommé avec admiration, d'ailleurs.
Oui.
La construction du personnage de Kurtz, comme ça, touche par touche.
Par oui dire, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que finalement, quand on. Vous avez lu Au cœur des ténèbres, je vais peut-être raconter. Je ne voudrais pas gâcher non plus le suspense. Mais donc, on va avancer dans la connaissance de Kurtz, d'abord par des paroles rapportées, ce qui est, comme on a expliqué tout à l'heure, un peu toute la construction du livre. Donc, finalement, on nous raconte quelque chose. On va apprendre qui est ce Kurtz là-bas, au fin fond, au bout du voyage, au cœur des ténèbres.
Au bout du voyage, pour le coup, par exemple, moi, ce qui m'a frappé en le relisant, j'avais tout à fait oublié ça, c'est qu'au fond, le personnage de Kurtz devient effectivement une sorte de but de voyage, mais il devient un but de voyage en cours de route.
C'est ça qui est curieux. Oui, bien sûr.
Le personnage, le narrateur, n'a aucune raison objective. Il ne va pas le chercher, il ne va pas lui rendre visite, il n'a pas pour objectif de le voir.
Non, mais là, je pense qu'il
y a et en cours de route, touche par touche, il y a des éclats comme ça fascinants, des espèces de silhouettes, de croquis rapides, comme ça, d'allusions. Oui, mais c'est de ça que vous parliez.
Oui, c'est justement la construction du personnage, vraiment par petites touches, et on va, découvrir toute l'horreur qu'il y a autour de lui. Presque à la fin du voyage, précisément. Mais au départ, je pense parce qu'on est déformé.
Il est fascinant, c'est ça, il est fascinant, et peu à peu, il commence à orienter ce voyage, justement.
Oui, il est bien sûr attirant, comme... puisque c'est un homme dont on parle en des termes justement très exceptionnels, qui a réussi donc, voilà, dans le commerce de l'ivoire, qui est celui qui a réussi à dominer la région et la nature. C'est finalement ça la force de Kurtz, c'est que on apprendra après par la suite par quels moyens terribles il s'est rendu maître un peu de cette région, mais le personnage nous apparaît comme ça autour d'une phrase, en disant voilà, c'est là que j'ai appris le nom de celui qui, sans qu'on me le dise, et va se construire petit à petit. Mais ce qui se passe, c'est que on est assez peut-être déformé par l'adaptation de Coppola, par Apocalypse Now, qui, tout en étant, à mon avis, très fidèle, fait exister Kurtz dès le départ. Et le but du voyage chez Coppola, c'est la rencontre et la destruction de Kurtz. Alors que là, non.
Justement, oui.
Et c'est quelque chose qu'on oublie, c'est qu'ici, la rencontre avec Kurtz, elle est presque par hasard. C'est pas du tout le but du voyage. Et au contraire, c'en est presque plus saisissant, au sens où c'est presque une histoire de contamination.
Oui, c'est vrai, j'ai eu le sentiment en lisant que on partait pour un voyage qui s'était fixé à certains buts officiels. Puis, effectivement, en longeant les côtes de l'Afrique, on est comme suspendu dans une sorte d'irréalité sans rien à quoi s'accrocher de concret. Mais à mesure qu'on s'approche de Kurtz, même sans le savoir, Kurtz, quelque part dans le champ, commence à affoler la boussole. On commence à le détecter. Oui. Et plus on s'approche de lui, plus on le détecte. Et plus on le détecte, plus sa puissance de gravitation commence à s'exercer. Et il finit par devenir un but pour le narrateur. Non ?
Oui, mais même un but. Je ne vais pas jusqu'à un but, parce qu'il est. C'en est presque obligatoire, mais on ne recherche pas forcément. C'est-à-dire que Marlowe est attiré un peu comme presque malgré lui, par toutes les rencontres qu'il fait sur le chemin, notamment le russe. Un personnage assez incroyable qu'il y ait un marin russe qui a atterri là et qui donc a fréquenté Kursk, qui va lui parler de Kursk dans des termes plus précis, et puis il va avancer encore. Et finalement, ce qui est extraordinaire dans ce voyage, c'est qu'on ne rencontre pas Kursk. Finalement, on arrive, Kursk est déjà malade, mourant, et meurt. Donc il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire.
Il l'a dit. Bon.
Oui, finalement, j'ai
essayé. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, ça y est, il a vendu la mèche. Bon. En effet, il meurt. On le rencontre tout de même.
Oui.
On le rencontre tout de même. Mais disons que la rencontre n'est pas du tout.
C'est pas du tout le contenu.
Voilà. Oui, ça, c'est vrai.
Pas du tout le contenu qu'on attend, puisque justement, on attendrait une révélation, quelque chose, une découverte de ce personnage. Et en fait, il nous précipite dans un mystère encore plus grand. On aperçoit toute la violence qui est autour de lui, qu'il a lui-même déclenchée. Quand on arrive, on voit cette tête coupée sur des poteaux. On pèle vraiment, on arrive au cœur de l'horreur. Et justement, les mots de course, c'est ça, c'est-à-dire l'horreur. Mais le personnage en soi nous échappe. Ses motivations nous restent étrangères, au fond. C'est juste cette figure très forte, un peu extraordinairement puissante, qui nous amène comme ça vers un mystère qui est celui du mal et des ténèbres, justement. Alors, finalement, le cœur des ténèbres n'a pas de fond, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le restreindre à Kurtz.
Oui, c'est pourquoi je parlais de la traduction du titre tout à l'heure. Le titre anglais, c'est Heart of Darkness. C'est cœur des ténèbres, littéralement. Cœur des ténèbres. Et cœur des ténèbres, on peut l'entendre de différentes façons. Soit nous sommes dans les ténèbres et ces ténèbres ont un centre, soit ce sont les ténèbres elles-mêmes qui voient. Le génitif est objectif ou subjectif, pour le dire. Pour le dire rapidement et techniquement, cœur des ténèbres.
C'est-à-dire, soit fait de ténèbres.
Voilà, soit nous sommes plongés dans les ténèbres et nous cherchons leur centre, soit nous portons en nous ces ténèbres. Nous portons en nous ces ténèbres qui nous aveuglent, même à notre insu.
Oui, alors qu'en français, le haut nous en dédouane.
Oui, il désigne déjà le but d'un voyage ou une position sur une carte. Une position sur une carte, alors qu'effectivement, l'anglais...
Alors que l'anglais, c'est nous-mêmes qui possédons ce cœur de ténèbres, en fait.
Qui pouvons le posséder, oui. Effectivement. Mm. Oui. Parce que ce qui m'a intéressé dans le fait que vous choisissiez ce texte-là aussi, Mathias Sénard, c'est que, précisément, dès le titre, on sent que Conrad, comment dire, a tricoté un rapport très intime et consubstantiel entre ces personnages, le trajet de ces personnages... et le territoire dans lequel les personnages déploient leur quête, leur aventure, appelons ça comme on voudra. Et j'ai eu l'impression, en lisant vous, que c'était quelque chose qui, si on peut parler de leçon, en tout cas c'est quelque chose qui vous a marqué. Dans les quelques livres que j'ai lus de vous, j'ai vraiment eu le sentiment aussi que précisément ce que vivaient les personnages ne pouvait pas être séparé de la terre,
de
la géographie, du lieu où ça se déploie.
Oui, tout à fait, c'est vrai qu'il y a au-delà précisément des rapports que certains de mes textes peuvent avoir, plus presque factuellement avec au cœur des ténèbres, c'est vrai que tous mes récits sont toujours très géographiques, au sens où ils ne pourraient pas se passer n'importe où. Le lieu est un des actants, des personnages importants du récit.
Ça fait partie de leur corps, quasiment.
Oui, ça fait partie d'eux-mêmes, de leur personnage. Et le voyage, ce moteur magnifique pour la fiction, permet cela, justement. Permet d'utiliser non seulement le déplacement, mais aussi le lieu où l'on se trouve et où l'on arrive dans la construction et l'évolution d'un roman. Mon dernier livre, par exemple, est vraiment conçu comme un peu un... Rue des voleurs, ça s'appelle. Comme un voyage, ainsi de suite, qui s'ouvre d'ailleurs pour, par une phrase de Père des Ténèbres. Et la géographie, il y a une place prépondérante, c'est que c'est vraiment les lieux qui vont avec les personnages. Donc, parce qu'à Tanger, elle est vraiment forcée. Mais le génie de Conrad, alors pourquoi ce texte est aussi extraordinaire? C'est parce qu'il réussit ce tour de force qui est d'être à la fois très géographique, très précis, en fait, sans l'être, et en réussissant à très concrètement déplacer l'ensemble du texte dans le domaine du symbolique très facilement. Et ça, c'est une réussite presque magique de faire de ce récit à la fois un récit d'initiation, de fabriquer presque une mythologie. Avec ce Kurtz, tout en étant très, très centré sur l'Afrique et le Congo de son époque, puisqu'on sait que c'est le propre voyage le voyage de Conrad lui-même qui lui a inspiré ce texte.
Dans le passage que vous venez de lire, que je recherche désespérément d'ailleurs, pouvoir citer la phrase exactement, c'était où le passage que vous venez de lire? Cette description des travailleurs agonisants,
page 97,
laissés à crever dans leur coin. Parmi les premières phrases que vous avez lues, justement à propos de ce mélange entre le concret absolu de la chose vue, parce que là, pour le coup, on a vraiment le sentiment que ça a été vu, ça n'est pas de la, ça n'est pas de la fiction, c'est du journalisme, c'est du documentaire, c'est du « j'ai vu cela », c'est d'ailleurs terrible, ce que Conrad a vu, et la capacité à porter ça à une sorte de puissance symbolique, j'allais dire supérieure, mais qui fait résonner ça bien au-delà de son temps, ça m'a fait penser à Beckett, figurez-vous. Et ça m'a fait penser très, très précisément aux dépeupleurs, quand vous avez lu des formes à demi surgissantes, à demi estompées dans l'obscure lumière, dans toutes les attitudes de la douleur, de l'abandon, du désespoir. Je suis quasiment certain d'avoir lu ça dans le dépeupleur, des formes dans toutes les attitudes. J'ai l'impression vraiment, là pour le coup, que c'est un passage auquel Beckett quasiment a rendu hommage. Beckett, en quelque sorte, c'est presque, dans le dépeupleur, c'est presque le rapport inverse. C'est un texte qui paraît très très symbolique, mais qui au fond, une fois lu de près, devient extrêmement concret. Et d'ailleurs, le rapport entre les deux, c'est peut-être Dante. Parce que ce passage-là rend hommage à l'enfer de Dante. D'ailleurs, le terme anglais pour dire enfer dans ce texte, ce n'est pas hell, c'est inferno, qui est le terme qui désigne très précisément l'enfer dantesque.
Oui, mais alors comment est-ce qu'il parvient justement à passer du reportage, c'est-à-dire de la chose vue, à cet aspect bien plus puissant et très littéraire? C'est évidemment avec à part la beauté de sa description, par le contraste avec le belge. C'est ça le génie du romancier, et là, c'est de fabriquer cet enfer. Finalement, si on y était resté, on ne l'aurait pas vu. Mais en mettant devant ce personnage tellement propre et droit, ça fabrique
cette espèce de caricature, du colonialisme refusant le contexte. Mais là c'est pareil. Et évidemment, à première lecture, on est frappé par le contraste entre les corps noirs prostrés et le corps blanc dressé, impeccablement habillé et sorti pour prendre un peu d'air frais dans ce mouroir. Mais en vous lisant, ce qui m'a frappé aussi, c'est ce contraste entre le costume et sa costumière,
évidemment,
oui, évidemment. En arrière-plan terrible,
qui n'aimait pas ce travail,
et ce fil blanc sur le couloir, ce fil blanc qui tout d'un coup prend une présence, un poids de réalité vraiment poignant, vraiment terrible sur ce corps agonisant. Et là, nous ne sommes qu'aux toutes premières étapes de ce voyage, qui, entre parenthèses, couvre une petite centaine de pages dans cette édition. Le texte est extrêmement dense et extrêmement bref. Et ça aussi, c'est, vous l'avez dit, comment fait-il ? C'est miraculeux. C'est à la fois extrêmement dense, extrêmement bref. C'est pour ça que votre réaction de lecteur de 13 ou 15 ans m'a touché, parce qu'effectivement, comment fait-il pour consacrer 20 pages sur un texte aussi dense à ce qui paraît effectivement une entrée en matière un peu...
Et il faut en enlever 15 à la fin, un peu de l'épilogue.
Oh, j'aime bien l'épilogue.
Non, on aime bien, mais on n'est plus en Afrique.
Non, on n'est plus en Afrique. On boucle la boucle.
On boucle la boucle.
On vient,
et on va voir la fiancée des courses.
Parce qu'effectivement, comme il y a un cœur, la construction est aussi un peu, elle est un peu en rimes embrassées en quelque sorte, de la Tamise à la Tamise, de Bruxelles à Bruxelles.
Et la voix qui referme.
Et à l'intérieur, vous avez l'Afrique avec son centre.
Et ce jeu de voix aussi, de passage.
Et de relais, de voix qui fait passer de l'un à l'autre.
Et ça, c'est implacable comme construction. Impossible de. On peut évidemment mieux faire, mais dans l'aspect formel, absolument parfait. Et.
Je ne sais pas si on a. L'étape suivante,
ouais, ici. On a encore le temps de.
On va le prendre.
On va un peu entendre parler de Kurtz quand même.
Oui, parce que pour ce qui est d'entendre de Kurtz lui-même. Il y a quelques mots de Kurtz, quelques éclats de paroles authentiques de Kurtz qui sont cités, mais très très peu, et qui ne font que multiplier le mystère, d'ailleurs.
Oui.
C'est un peu d'ailleurs comme le Christ, d'une certaine façon, hein, curieusement. Ce texte-là, je l'ai lu, c'est comme une sorte d'évangile noir, ou d'évangile à l'envers, où, effectivement, on recueille les traces d'un personnage extraordinaire.
On commente ces gestes.
Et on recueille quelques-unes de ces paroles authentiques.
Et on dit, par exemple, on commente ces gestes, un passage au hasard, par exemple, où on dit Kurtz. Kurtz, ça veut dire court en allemand. Hein? Eh bien, le nom était aussi vrai que tout le reste de sa vie et de sa mort. Il semblait long d'au moins 7 pieds.
2,10 mètres.
Ouais. Et donc, c'est vraiment quelque chose de christique. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le... Oui, mais c'est du domaine du religieux, c'est-à-dire du témoignage, de la transmission.
Oui, oui. Il y avait là quelque chose qui était à la fois humain et plus qu'humain, et on n'arrive pas à le cerner. Personne n'arrive à le cerner. On n'arrive à le décrire que par les reflets qu'il a posés sur d'autres visages, celui du russe, celui du comptable, celui des noirs qui le transportent. Mais bon, allons me rencontrer donc, face à face, si j'ose dire.
Troisième chapitre, où donc on est arrivé, juste avant le troisième chapitre, on arrive donc voir chez Kurtz. Dans mes jumelles, je vis la pente d'une colline parsemée de quelques arbres et parfaitement dégagée de broussailles. Un long bâtiment décrépit au sommet était à demi enseveli dans les hautes herbes. Les grands trous du toit pointu baillaient noir vu de loin. La neige... La jungle... et les bois faisaient le fond. Il n'y avait pas de clôture ni de palissade d'aucune sorte, mais il y en avait une apparemment, car près de la maison, une demi-douzaine de minces poteaux restaient en rang à peine équarris et ornés dans le haut de boules rondes sculptées. Le treillage, quoi qu'il ait pu y avoir entre eux, avait disparu. Naturellement, la forêt encerclait le tout. La rive était libre, et sur le bord, je vis un blanc sous un chapeau en roue de charrette, faisant avec persistance des appels du bras tout entier. Examinant la lisière de la forêt au-dessus et au-dessous, j'étais presque sûr que je voyais des mouvements, des formes humaines qui glissaient ça et là. Je bordais prudemment, puis j'arrêtais les machines et je laissais dériver. L'homme de la côte commença à crier, nous pressant de débarquer. « Nous avons été attaqués, brailla le directeur. »« je sais, tout va bien, » hurla l'autre, content comme tout. « Venez, tout va bien, je me réjouis. » Son air me rappelait quelque chose de déjà vu, quelque chose de drôle, vu quelque part. Comme je manœuvrais pour aborder, je me demandais « De quoi ce type a-t-il l'air ?» Subitement, ça y était. Il avait l'air d'un arlequin. Ses vêtements avaient été faits d'une étoffe qui avait pu être une toile écrue, mais ils étaient partout couverts de pièces de couleurs vives, bleu, rouge, jaune, des pièces au dos, des pièces devant, des pièces au coude, au genou, une ganse de couleur autour de la veste, une bordure rouge en bas de ses pantalons. Et le soleil lui donnait un air extrêmement gai. Et merveilleusement soigné en plus, car on voyait comme tout ce rapiessage avait été superbement fait. Une figure imberbe de garçon très blond, pour ainsi dire pas de traits, le nez qui pelait, des petits yeux, des sourires et des froncements se succédant sur ce visage ouvert comme le soleil et l'ombre sur une plaine balayée des vents. « Attention, capitaine » cria-t-il. « Il y a un obstacle qui s'est coincé ici la nuit dernière. »« Quoi ? Encore un ?» J'avoue que je jurais comme un païen. J'avais failli crever mon éclopée pour couronner cette charmante balade. L'arlequin de la rive tourna vers moi son petit nez canu. « Anglais ?» me demanda-t-il. « Et vous ? » criai-je de la barre. Les sourires disparurent. Il secoua la tête comme s'il avait regret de ma déception. « Arrivons-nous à temps ?» demandai-je. « Il est là-haut, » répliqua-t-il, désignant le haut de la colline de la tête et prenant soudain un air sombre. Son visage était comme un ciel d'automne, couvert un moment et lumineux au suivant. Enchaînant, il me conseilla de garder assez de vapeur dans la chaudière pour actionner le sifflet en cas de commotion. Un bon hurlement fera plus pour vous que tous vos fusils. Ce sont des singes, répéta-t-il. Son flot de paroles me submergeait complètement. Il semblait vouloir compenser des blocs de silence, et en fait, il convint en riant que c'était bien le cas. Ne causez-vous pas avec Monsieur Kurtz, dis-je. « On ne cause pas avec cet homme-là. On écoute !» s'exclama-t-il d'un ton d'exaltation grave. Mais maintenant, il agita le bras et en un clin d'œil se retrouva au fin fond de l'abattement le plus extrême. Un moment après, il remonta d'un bond, me prit les deux mains et secoua longuement tandis qu'il jacassait. Je le regardais, perdu d'étonnement. Il était là devant moi, bariolé, comme s'il s'était échappé d'une troupe de mimes, enthousiastes, fabuleux. Son existence même était improbable, inexplicable, tout à fait déconcertante. Il était un problème insoluble. Comment avait-il subsisté, on n'arrivait pas à l'imaginer. Comment il avait réussi à arriver jusque-là, comment il avait trouvé moyen d'y rester, comment il ne disparaissait pas instantanément. J'ai été un peu plus loin, dit-il, puis encore un peu plus loin, jusqu'à ce que je sois allé si loin que je ne sais comment je retournerai jamais. N'importe, rien ne presse, je peux me débrouiller. Emmenez Kurtz, vite, vite, je vous le dis. Une magie de jeunesse enveloppait ses haillons multicolores, sa misère, sa solitude, l'essentielle désolation de ses futiles vagabondages. Des mois, des années durant, on ne lui aurait pas donné un jour à vivre, et il était là, vaillant, indestructible. J'étais conquis jusqu'à éprouver une sorte d'admiration, d'envie. Une magie le poussait, une magie le gardait invulnérable. Ils s'étaient rencontrés inévitablement comme deux navires encalaminés proches l'un de l'autre qui se frottent entre les flancs. Je suppose que Kurtz avait besoin d'un auditoire, puisqu'une certaine fois, campant dans la forêt, ils avaient causé toute la nuit. Ou que, plus probablement, Kurtz avait causé. Nous avons parlé de tout, dit-il, transporté à ce souvenir. J'ai oublié que le sommeil existait. La nuit n'a pas semblé durer une heure. Tout, tout. De l'amour aussi. Ah, il vous a parlé d'amour, dis-je, fort amusé. Ce n'est pas ce que vous imaginez, s'écria-t-il presque avec passion. C'était en général. Il m'a fait voir des choses. Des choses. On va rapprocher un peu de Kurtz encore. Très souvent, à mon arrivée à ce poste, j'avais à attendre des jours et des jours avant qu'il ne survienne. Ah, ça valait l'attente, parfois. Qu'est-ce qu'il faisait? Il explorait ou quoi? Demandai-je. Ah oui, bien sûr, il avait découvert des tas de villages, un lac aussi. Il ne savait pas exactement dans quelle direction. C'était dangereux d'en demander trop. Mais en général, ces expéditions avaient eu l'ivoire pour but. Mais il n'avait plus de marchandises à troquer à ce stade, objectai-je. Il reste encore maintenant un bon stock de cartouches, dit-il en regardant ailleurs. Pour parler franc, il pillait le pays, dis-je. Il fit oui de la tête. Pas tout seul, sûrement. Il marmonna quelque chose concernant les villages autour de ce lac. Kurtz se faisait suivre de la tribu, hein, suggérai-je. Il s'agita un peu. Il l'adorait. Le ton de ses paroles était si étrange que je le regardais avec une insistance d'inquisiteur. Il joignait curieusement le désir et le refus de parler de Kurtz. L'homme emplissait sa vie, occupait ses pensées, dominait ses émotions. « Que pourrait-on attendre d'autre ? » s'exclama-t-il. « Il arrivait sur eux avec le tonnerre et la foudre, voyez-vous, et ils n'avaient jamais rien vu de pareil. » C'était terrible. Il pouvait être très terrible. On ne peut pas juger M. Kurtz comme on ferait un homme ordinaire. Non. Eh bien, pour vous donner une idée, simplement, je peux bien vous dire qu'il a voulu me tirer dessus aussi un jour. Mais je ne le juge pas. Vous tirez dessus ? M'écriai-je. Pourquoi ? Eh bien, j'avais un petit stock d'ivoire que le chef du village proche de ma maison m'avait donné. Voyez-vous, je leur tuais du gibier. Eh bien, il le voulait. Il ne voulut pas entendre raison. Il déclara qu'il me tuerait, à moins que je ne lui donne l'ivoire et après disparaisse du pays. Car il le pouvait, et il en avait envie. Et il n'y avait rien au monde pour l'empêcher de tuer qui bon lui semblait. Et c'était vrai, en plus. Je lui ai donné l'ivoire. Qu'est-ce que ça pouvait faire? Mais je n'ai pas disparu. Non, non. Je ne pouvais pas le quitter. Il a fallu que je fasse attention, bien sûr, jusqu'à ce qu'on se réconcilie pour un temps. Il a fait sa deuxième maladie à ce moment-là. Après, il a fallu que je me tienne à l'écart.
Vous avez beaucoup d'affection pour ce personnage.
Du directeur?
Oui. Du petit russe.
Le marin?
Oui. De cet étrange jeune russe qui est aussi un peu un autoportrait de Conrad à distance.
Oui, disons qu'il a, le contrairement à Marlowe qui est un personnage, enfin le narrateur qui s'appelle Marlowe, qui est un personnage qui semble un peu revenu de tout, dont on sent que justement c'est pas pour rien que dans ce moment-là de sa vie il cherche des réponses à ses questions. On imagine plutôt un homme plutôt mûr. En revanche, le marin a la figure de la jeunesse, c'est et justement de l'apprentissage. Est-ce qu'on peut, c'est cette phrase, d'ailleurs je reprends en exergue de Rue des Voleurs, qui est très surprenante et qui est J'ai beaucoup appris ici.
Et Marlène,
ici. Ici. Oui, même ici. Ça, c'est une figure effectivement assez attachante. Cette galerie de personnages est absolument incroyable quand même. On va pas revenir au nombre, aussi peu de pages de ce texte, mais c'est quand même une densité extraordinaire, même en termes de personnages, de types, de figures, le courage, la lâcheté, la résignation, l'apprentissage, l'aventure, ici, le plaisir des livres, puisqu'il y a aussi ce fameux livre,
le seul livre qui traîne dans tout le texte, appartient à ce jeune homme.
Voilà, on a l'impression que c'est le seul livre de toute l'Afrique.
Oui, et ce livre est un traité de navigation.
Ouais.
Mais il traîne dans la jungle, un traité de navigation, avec des annotations en russe.
Ça aussi, à mon avis, c'est vrai. C'est-à-dire que je pense que c'est le genre de choses que Conrad a dû voir, et ça, il a dû trouver ça tellement extraordinaire que au milieu du Congo, encore inexploré, on trouve comme ça un traité de navigation annoté en russe, qu'il a dû en inventer le personnage
à partir de là. En prendre bonne note.
Ouais.
Et donc, on découvre à travers ce jeune russe, on croit entrevoir un homme qui est à la fois une sorte de puissance prophétique avec un verbe absolument fascinant.
La voix,
oui, on parle de lui comme d'une voix. Il n'a presque plus de corps d'ailleurs, il n'est plus qu'une sorte de bloc d'ivoire lui-même, une sorte de squelette.
Squelette malade, mais qui gouverne grâce à sa voix.
Une voix extraordinaire. Ouais. Et en même temps, cette puissance de verbe, cette puissance de séduction d'une pensée, qui peut même parler d'amour, en général, est aussi une sorte de prophète guerrier.
Alors qu'on peut parler d'amour qu'en particulier. Mais, je réfléchissais, on peut entendre peut-être juste le passage où on parle de la voix, voilà. Les discours de Kurtz. Le courant brun nous emportait rapidement loin du cœur des ténèbres. Voilà, donc ça c'est sur le retour. Vers la mer, à deux fois la vitesse de notre remontée. Et la vie de Kurtz s'écoulait rapidement, elle aussi, refluait de son cœur vers la mer du temps inexorable. Le directeur était très placide, n'ayant plus d'anxiété vitale maintenant. Il nous embrassait tous les deux dans un regard compréhensif et satisfait. L'affaire s'était conclue aussi bien qu'on pouvait l'espérer. Kurtz discourait. Une voix. Elle retentit profonde jusqu'au bout. Elle survécut à sa force pour cacher dans de magnifiques plis d'éloquence les ténèbres arides de son cœur. Ah, il a lutté. Les déserts de sa tête là s'étaient hantés maintenant par des images spectrales de richesse, de gloire, qui avaient pour centre son don indestructible d'expression noble et fière. Ah, sacrée voix quand même, c'est quoi ça ?
Mais ce que dit cette voix ne restera jamais tout à fait précisé. On aussi... La couleur est clairement démoniaque à la fin. Clairement démoniaque. On parle d'une âme malade. Mais pourtant, le narrateur garde un respect pour cet homme. Il dit que tant qu'à choisir entre deux cauchemars, lui, il a choisi d'être fidèle au cauchemar de Kurtz plutôt qu'au cauchemar du directeur. Le directeur, lui, ne veut que régler ses affaires commerciales. Kurtz, à travers sa folie, qui n'en est pas vraiment une, à travers sa démesure, il transporte malgré tout une idée où il avait, dit le narrateur, quelque chose à affirmer. Il l'a dit, et pour cela, il le respecte. C'est une fin assez... Le personnage n'est pas tout à fait condamné. Il n'est pas condamné comme simplement une incarnation du mal.
Non, mais il le dit à un moment,
qu'on pourrait éliminer. C'est... Non ?
Oui, je ne le condamne pas, d'ailleurs. Il le dit, c'est vraiment... là, on est vraiment dans l'exploration. Mm-hmm. et dans la description, mais pas dans le justement dans la condamnation, c'est ce qu'on lui a reproché d'ailleurs. Et même à la fin, il le sauve, puisqu'il transforme le pour sa fiancée les dernières paroles de Kurz, puisque ça aurait été trop horrible, ce qu'il dit, ça aurait été vraiment trop horrible. Moi, je pense que Marlowe est finalement contaminé. C'est vraiment une histoire d'une contamination, d'un contact, comme ça. Et les deux personnages, finalement, n'en font qu'un, presque. J'ai l'impression que... deux aspects de la même chose.
À la fin, quand, dans ce passage que personnellement vous croyez apparemment, dans le retour à Bruxelles, le narrateur va rencontrer la promise, la fiancée, et la promise va lui demander un témoignage sur cet homme qu'elle a adoré et qu'elle adore encore, et elle va lui demander ses dernières paroles. Et il les a entendues, les dernières paroles. Et ces paroles, c'était...
Horreur, horreur.
Voilà. Et qu'est-ce qu'il va lui dire à la chère promise? Il va lui dire... Ben, vous vous souvenez? Il lui dit... Les dernières paroles qu'il a prononcées, c'était votre nom. Voilà. C'était votre nom. Et la promise s'écrit... J'en étais sûr. C'est terrible.
C'est terrible, mais comme il dit... Il justifie ce mensonge en disant ça aurait été trop horrible. Ouais. C'était pas. Justement, remet, en fait, finalement, la fin, quand on parlait de cette espèce d'agencement comme ça, il remet le monde en ordre.
Il remet en place une certaine illusion nécessaire.
Ouais, exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, notamment de ce qu'il a vu et compris, qu'il ne nous transmet pas forcément d'ailleurs, hein, de ce. D'un homme au cœur des ténèbres, il vaut mieux pas que ça se sache. Et c'est pas transmissible.
Alors, justement.
Alors, après, on peut dire que c'est pas transmissible aux femmes.
Oui. C'est vrai.
Enfin, y a un peu ce côté-là quand même chez Conrad, parce que c'est quand même la promise qu'il faut la maintenir un peu quand même à l'écart de l'horreur. Parce que c'est les femmes qui vont finalement transmettre la vie et quelque chose d'assez un peu traditionnel là, chez notre ami Conrad. Mais en même temps...
Oui, moi j'ai un truc presque symboliste, c'est une sorte de dame bruxelloise à la Maeterlinck, comme ça, qui est toute blanche, confite dans son deuil, une sorte d'incarnation de l'âme spirituelle, dont l'amour inconditionnel pour Kurz, d'une certaine façon, peut-être, sur un autre plan, rachètera quand même et le sauvera. Oui. Une figure du salut, c'est vrai.
Oui,
c'est un peu conventionnel, c'est vrai. Mais pour moi, ça n'en donne rien à la puissance noire du texte.
Ah non, au contraire, je pense que...
Mais c'est vrai qu'on revient à une sorte de superficialité de nécessaire.
Avec un camarade, j'ai eu beaucoup de discussions là-dessus, sur « fallait-il ?» cet épilogue. Est-ce que... et moi, je pense que oui, justement.
Vous en parliez à propos d'un de vos propres textes ?
Non.
Non ? Parce qu'en lisant « Rue des voleurs », pour le coup, j'ai eu l'impression que... Je ne sais pas si c'était un geste voulu, mais que la figure correspondant à courte toute proportion gardée, et qui s'appelle Kurz, d'ailleurs, vous l'avez placé plutôt dans le centre aussi.
D'accord. Oui, tout à fait.
Voilà. Et que le noyau d'étrangeté de cette figure-là, qui restera étrange, qui restera
inconnaissable,
ininterprété, vous l'avez placé au centre aussi pour après remonter vers quelque chose de moins... C'est-à-dire que la construction était un peu semblable, d'une certaine façon. Il y avait aussi un noyau de noirceur.
Oui.
Et aux deux extrémités, on retrouve les mêmes figures.
Tout à fait.
Oui,
tout à fait. Est-ce que j'y ai pensé avant? Non. Bien sûr, l'épisode central de ce monsieur Kurz, bien évidemment, j'avais le personnage de Kurz dans la tête, en tout cas. Son aspect, justement, un cœur de ténèbres. Et pas au cœur de ténèbres, mais un cœur de ténèbres.
Un seul, parce que pour le coup, Rue des voleurs, on a plusieurs. D- des cœurs de ténèbres.
Voilà. Et ensuite, le... Mais c'était pour moi qu'un des épisodes du voyage. C'est un épisode central, mais de ce voyage tripartite, en fait, à trois positions géographiques différentes. C'était vraiment le moment central. Effectivement, ça rejoint un peu la construction de Conrad, mais en même temps, les choses à trois volets, avec une... parce que central, c'est quand même pas...
Non, mais il y a ce rapport, effectivement, au voyage, et à l'accumulation d'une expérience extrêmement noire, qui est frappant. Mais c'est vrai que votre voyage à vous, dans Vous les voleurs, il est sans retour, pour le coup.
Oui, on ne revient pas au point de départ.
On ne revient pas au point de départ.
C'est sûr. Et revient-on jamais au point de départ?
J'oubliais de dire que, je le signale toujours, ce petit livre dont nous avons parlé, dont nous pourrions encore parler des heures, je pense que vous voyez bien, coûte exactement le prix, je crois, d'un paquet de cigarettes, c'est-à-dire 6 euros. Mathias Sénard, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. Merci.